Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Radio Présence pour un nouveau numéro de Métropolez-vous, l'émission que nous consacrons chaque semaine à l'actualité de Toulouse Métropole. Une métropole qui, comme vous le savez, connaît un fort développement démographique avec une population en hausse constante depuis de nombreuses années. Un phénomène dont on pourrait se réjouir mais qui a des conséquences dans de nombreux domaines, nécessitant d'adapter l'offre à la demande, si je puis dire, notamment concernant le logement, les équipements publics et les transports et déplacements. La voirie doit aussi être adaptée à cette nouvelle donne dans certaines zones de la métropole toulousaine, celle des principaux bassins d'emploi où la circulation devient de plus en plus problématique aux heures de pointe. C'est le cas par exemple pour le pont de Gagnac-sur-Garonne, un secteur où le flux routier est très élevé. Un projet de modernisation de cet ouvrage existe depuis quelques temps et il a fait l'objet d'une concertation publique entre fin février et fin mars dernier, avant que les travaux soient lancés. Quel est ce projet et quels sont ses objectifs, son calendrier? Quels ont été les résultats de la concertation? C'est ce que nous allons voir au cours de cette émission. Et pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Grégoire Carnero, maire de Castelginest et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la voirie. Bonjour monsieur le vice-président et merci d'avoir accepté de répondre à mes questions dans cette émission où vous venez pour la première fois d'ailleurs.
Bonjour à vous.
Si vous le voulez bien, nous allons tout de suite expliquer en quoi consiste le projet de modernisation du pont de Gagnac-sur-Garonne et ce qui a rendu cette modernisation nécessaire. Ça nous permettra ensuite de préciser les objectifs, les caractéristiques et le calendrier du projet tel qu'il est prévu à ce jour.
Alors, un propos liminaire, si vous permettez. Le pont de Gagnac fait partie des 500 ouvrages d'art qui sont sous l'œil, je dirais, attentif de la métropole. 3500 km de voirie et environ 500 ouvrages d'art. En 2017, nous avons reçu cette compétence, notamment le pont de Gagnac, nous est arrivé, si je puis dire, dans le package des transferts de compétences, et nous travaillons sur ce pont depuis très longtemps pour nous, parce que même si c'était petites années, on s'est mis tout de suite à l'ouvrage. On a déjà investi d'ailleurs 1,1 million. J'ai regardé les chiffres, ils sont très actualisés, et nous avons un projet de modernisation, parce que ce pont, qui date des années 60, effectivement, il faut le surveiller.
Oui, il y a un entretien évidemment régulier qui doit se faire et puis éventuellement il peut y avoir aussi des réparations puisque certaines pièces s'usent comme pour n'importe quel ouvrage.
Oui, il y a un entretien et une surveillance, il faut le savoir, y compris subaquatique. On a même des plongeurs qui vont regarder
les piles.
Donc c'est très très surveillé et notamment celui-là parce que ces ponts, on les connaît bien, c'est une typologie de ponts qu'on connaît bien. Ils sont robustes. Mais il faut faire très attention parce que le trafic augmente tellement que, bien entendu, il supporte des charges considérables.
Oui, il est mis de plus en plus à rude épreuve, si on peut
voilà.
dire.
C'est ça. D'ailleurs, je vous donne un chiffre, 20 000 véhicules jour, 800 camions. C'est le 44 tonnes maxi, c'est le code de la route, hein, avec 13 tonnes à l'essieu. C'est le cadre du code de la route. Et parfois, il y a des véhicules qui sont plus lourds qui passent. Donc, on a installé de la surveillance.
Donc, il y a une modernisation et des réparations sans doute qui vont être nécessaires, qui sont nécessaires. Qu'est-ce qui est prévu, en fait, quel montant va être investi pour procéder à cette reconstruction, si on peut dire?
Alors, nous avons engagé la réflexion, il y a 2 ans environ, même avant d'ailleurs. Mais on avait 2 options. La première, c'était une reconstruction complète du pont, un nouveau pont. La deuxième, une remise en ordre, si je puis dire, avec une modernisation, parce que c'est le mot qui convient, de façon à ce qu'on puisse faire du multimodal. Aujourd'hui, il n'y a que des petits trottoirs de part et d'autre de 50 à 60 cm.
Oui.
Donc, on va passer à 2 fois 2 mètres, au moins. Donc, les vélos et les piétons pourront passer dans de bonnes conditions, avec bien entendu les prolongements qu'il convient de faire en amont et en aval. Donc, première option, on refait le pont, mais ça avait, je dirais, c'était une catastrophe environnementale. Voilà.
Oui, j'allais vous poser la question, parce qu'évidemment, l'aspect environnemental est beaucoup plus pris en compte aujourd'hui qu'il ne pouvait l'être à l'époque où ce pont était construit.
Je crois qu'il faut absolument s'adapter, et ce pont, je dirais, est exemplaire dans son devenir. Il va être exemplaire, il l'est déjà par sa robustesse, mais il va être encore plus exemplaire parce que nous avons mis en place une méthode de concertation qui est remarquable. Nous avons également beaucoup de billes, si je puis dire, puisque nous y allions avec des propositions à cette concertation. Et on a déjà le calendrier des travaux. Et même, je vais vous donner une information tout à l'heure. Vous verrez, on va commencer à mettre en œuvre la phase active très, très rapidement.
La durée du chantier devrait être de combien? C'est un an à peu près?
On va dire un an. On va dire un an. Mais attention, il y a des chauves-souris, on l'a découvert, qui nichent sous ce pont. Et vous savez que là aussi, il y a des contraintes.
La biodiversité.
Voilà. Oui. On ne fait pas ce qu'on veut. Et c'est bien normal, d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. On sait que les chauves-souris, aujourd'hui, sont très précieuses pour l'environnement. Il va y avoir, évidemment, une fermeture du pont. Pas pendant les 12 mois, mais au moins pendant la moitié, voire un peu plus du chantier.
Ben écoutez, si on peut inclure dans ces 8 mois les mois de vacances d'été, si on peut inclure Noël, peut-être Pâques et Noël, c'est pas mal.
Oui, ça permettra de,
d'amortir l'impact, effectivement,
sur le trafic.
C'est l'objectif. Par contre, nous ne savons pas si nous ferons cette suspension de trafic en 27 ou en 28. Tout dépendra de la chauve-souris en question et d'autres facteurs environnementaux.
Donc pour l'instant, il y avait une date qui était prévue pour lancer le chantier, mais depuis la découverte de ces chauves-souris sous le pont, ça a été reporté, si je comprends bien.
Oui, mais le déroulé administratif reste le même, puisque la commission d'appel d'offres se réunira le 16 décembre, très précisément, et nous aurons un maître d'œuvre qui sera désigné. Pour tout vous dire, nous avons, pendant la période de collecte des dossiers, nous avions 11 candidatures, 4 ont été retenues, Et nous allons faire le choix très rapidement, de façon à rentrer dans la phase active dès l'année prochaine.
Qui dit fermeture du pont, dit report de trafic, inévitablement. Il va bien falloir que les gens passent ailleurs pour enjamber la Garonne. Qu'est-ce qui a été prévu?
Eh bien, nous avons deux ponts. Celui d'Onde, que vous connaissez bien sûr.
Entre Onde et Grenade.
Entre Onde et Grenade. Nous avons également celui de Blagnac. Et puis, il y a une passerelle. Cette passerelle, qui est à Gagnac, donc, mérite d'être réaménagée. Il y a d'ailleurs un projet de passerelle du côté de Fenouillet, mais ça viendra plus tard. C'est dans le cadre d'un autre volet de travaux de la métropole et on ne peut pas associer les deux.
Le but serait d'utiliser cette passerelle existante pour les piétons, peut-être aussi pour les vélos?
Peut-être aussi pour les vélos, effectivement, avec un système complémentaire de bus, de minibus-taxi, au niveau des deux rives, de façon à, une fois qu'on a bien déterminé les itinéraires, de façon à prévoir une souplesse, si je puis dire, et qu'il n'y ait pas de rupture dans les parcours.
Eh bien, merci de nous avoir brossé ce tableau très complet déjà du projet de modernisation du pont de Gagnac-sur-Garonne. Il est important que nos auditeurs en connaissent tous les tenants et aboutissants avant que nous parlions des résultats de la concertation proprement dite. En attendant, petit détour par l'actualité métropolitaine avec Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire « Métropole et vous, l'actu ».
L'avenir budgétaire de Toulouse Métropole s'assombrit quelque peu, des arbitrages difficiles pour l'institution avec la baisse des crédits alloués par l'État aux collectivités dans le cadre du projet de loi de finances 2025 et selon les estimations actuelles, l'impact financier qui pourrait frapper Toulouse Métropole et la mairie de Toulouse est estimé à 45 millions d'euros pour Toulouse Métropole et à 25 millions d'euros pour la mairie, un manque à gagner de 70 millions d'euros pour les deux collectivités. Pour la métropole, ce couperet budgétaire représente la totalité de l'épargne qui disparaît. Une épargne qui sert notamment à financer l'investissement pour garder des marges de manœuvre pour investir. La collectivité se prépare donc à rogner sur le budget de fonctionnement et a déjà annoncé le gel des embauches. Le ministre des Sports était de passage à Toulouse et apporte son soutien à la cité de la natation. Un chantier chiffré aux alentours de 30 millions d'euros, un projet porté par le club des Dauphins du TOEC où s'entraîne le quadruple médaillé des Jeux Olympiques de Paris 2024, Léon Marchand. Ce dernier faisait partie du voyage. Le club mythique de la ville rose sera d'ailleurs bientôt propriétaire de l'un des bassins des JO. Il s'agit d'une partie du bassin d'entraînement de l'aréna de Nanterre, 25 mètres, à laquelle viendront s'ajouter 25 mètres neufs supplémentaires. L'État a donc annoncé allouer 4,4 millions pour l'aménagement des futures infrastructures. En complément de l'État, Jean-Luc Moudin a déjà annoncé une enveloppe de la mairie à hauteur de 4 millions d'euros. Au total, un tiers du budget sera financé par les collectivités locales. Selon le club, le département de la Haute-Garonne et la région Occitanie participeront également au financement du projet. Ouverture prévue en 2027. Toulouse Métropole va aussi acheter un grand terrain pour accueillir les gens du voyage. Pour se mettre en conformité avec la loi, l'agglomération de Toulouse doit créer une deuxième aire de grand passage pérenne pour y accueillir chaque année des gens du voyage en itinérance entre les mois de mai et septembre. Sa capacité d'accueil doit pouvoir recevoir plusieurs centaines de caravanes. La semaine dernière, un bureau de Toulouse Métropole a acté l'achat de la parcelle d'Aussonne, un terrain correspondant aux caractéristiques recherchées et répondant aux contraintes techniques et réglementaires, une proposition mise au vote d'un prochain conseil de la métropole. Et puis une concertation menée pour réaménager les routes d'Agde et de Lavaur. Elle est menée jusqu'au 16 décembre et concerne les aménagements de la M112, axe structurant desservant le nord-est de la métropole. Le projet porte sur 2,3 km et concerne 4 communes, Balma, Montrabé, Toulouse et L'Union. Après la phase de diagnostic à l'automne 2023, des études préliminaires ont étudié les différents scénarios d'aménagement avant les études opérationnelles. Le public est donc invité à donner son avis sur ce projet. Objectif, bien entendu, trouver le meilleur aménagement pour faciliter les modes actifs et les transports en commun, sécuriser les déplacements, maintenir les conditions de circulation du secteur pour les véhicules légers et les poids lourds, mais aussi desservir le pôle économique est de la ville.
Merci beaucoup Corinne Saint-Félix pour ce tour d'horizon de l'actualité métropolitaine. Alors Grégoire Carnero, je vais vous demander de réagir aux informations de ce flash. J'imagine que la première, en tant que maire de Castelginès et vice-président de Toulouse Métropole, doit vous intéresser tout particulièrement.
Oui, effectivement. Vous savez, quand on n'a plus d'épargne dans une commune ou dans une métropole, eh bien, on emprunte. Donc on endette et on s'endette. Et on endette surtout les générations futures. Voilà, c'est pour bien comprendre le mécanisme financier que cela induit. Et il est immaîtrisable. Dès l'instant que vous avez zéro épargne, eh bien, vous ne pouvez plus autofinancer.
Et on ne peut plus investir aussi.
Et on ne peut plus investir. Ou alors, il faut emprunter. Et évidemment, vous savez que les banques ne prêtent que sous certaines conditions. Elles sont hyper vigilantes aujourd'hui. Donc, ça complique les choses.
Ouais, c'est
alors, c'est une affaire ancienne, puisqu'en 2013, la baisse des dotations de l'État a été amorcée. Et je prends un exemple pour une commune de 11 000 habitants, très très rapidement. Comme Castelginès, cela veut dire 10 millions de moins depuis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas où on va, grand point d'interrogation, mais dernière précision, comme on est quand même un gros employeur en matière de travaux, les collectivités, je pense qu'il ne faut pas trop sabrer. J'utilise un terme qui est adapté, me semble-t-il, les budgets des collectivités.
Eh oui, parce que c'est elle qui tire la commande publique et la commande publique permet à beaucoup d'entreprises de réaliser leur chiffre d'affaires.
Absolument. Alors, il faut savoir qu'il y a du tertiaire également, puisqu'il y a des bureaux d'études, il y a des bureaux de maîtrise d'ouvrage. Il y a donc des professionnels, mais il y a aussi des ouvriers qui travaillent sur les routes, sur les bâtiments, tout ce qui concerne les travaux publics. Et vous connaissez l'adage, quand le bâtiment va, tout va.
Oui, merci beaucoup Grégoire Carnero pour ces réactions à l'actualité métropolitaine. Retour maintenant au sujet principal de cette émission, les résultats de la concertation sur la modernisation du pont de Gagnac-sur-Garonne.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Seconde partie de Métropole et vous avec mon invité Grégoire Carnero, maire de Castelginest et vice-président de Toulouse Métropole en charge de la voirie. On en vient donc à la concertation sur la modernisation du pont de Gagnac et à ses résultats. Tout d'abord, comment elle a été organisée cette concertation? Elle a eu lieu entre le 26 février et le 29 mars de cette année. Quels étaient ses objectifs et ses modalités?
Eh bien, les objectifs, c'était d'amorcer le dialogue, peut-être aussi de rassurer un peu, parce qu'on a une connaissance approfondie de l'ouvrage et on peut apporter des informations au grand public. Vous savez, l'impact d'un pont qui s'écroule est considérable, je dirais même dans l'inconscient, pas simplement dans le champ de conscience. Et donc, nous avons des données qui nous permettent de dire que le pont de Gagnac est un pont qui est robuste, mais bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas appliquer le principe de précaution. Il faut faire attention et je vais vous dire très rapidement ce que nous avons mis en place. Vous verrez, c'est énorme, c'est énorme. Donc, rassurer, expliquer, rassurer et écouter. Voilà les maîtres mots de notre démarche.
Quel genre de public avez-vous sollicité pour participer à cette concertation? Alors j'imagine qu'il y a des particuliers, le citoyen lambda, comme vous et moi, et puis les acteurs des collectivités, des communes concernées, les acteurs socio-économiques aussi sans doute, les entreprises.
Oui, nous avons eu, je commence par la fin, c'est-à-dire le résultat, 764 contributions. Donc c'est important. Qui avons-nous consulté? Les professionnels, les gravières qu'il y a d'un côté de la Garonne et qu'ils doivent traverser pour aller de l'autre côté, en camion bien entendu, qu'ils doivent traverser pour acheminer les matériaux. Nous avons également vu des établissements scolaires, nous avons vu également du grand public, tous ceux qui prennent le pont, si je puis dire, comme moyen de franchissement. Et y compris d'ailleurs les camions, puisqu'on a distribué des flyers aux camions et aux véhicules lors de franchissement que nous avons sélectionné. Donc on a été très loin dans la démarche. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait deux hypothèses, que la première semblait, je dirais, séduisante, parce que c'est bien le mot qui convient. On reconstruit tout, oui, mais à quel prix ? Nous le verrons, à quel prix d'impact environnemental ? Ben, on allait casser, si je puis dire, de très nombreux hectares de bois, de nature, et donc l'option que nous avons prise, et là aussi il fallait faire preuve de pédagogie, ce n'est pas le coût financier. Le coût financier, bon, on peut le situer aux alentours, on va dire, entre 18 et 25 millions, c'est ce qu'il faudra mettre sur la table. Et puis surtout en délai, en 2027-2028, le pont est rénové. Donc c'est cette option que nous avons présentée, avec une première option qui était celle de la réfection du pont, et le public a été, séduit par la deuxième option, bien entendu, que nous pensions la meilleure. Mais le dialogue, cette alchimie du dialogue s'est bien opérée et nous avons eu de bons résultats.
En tout, il y a eu, je crois, 1000 participants qui ont donné 760 et quelques contributions.
Oui, un millier de participants, un petit peu plus, mais nous avons eu des retours qui sont importants. Et ces retours, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire pendant la fermeture du pont? Quels moyens supplémentaires? Est-ce que ça ne va pas impacter l'économie? Est-ce que les ponts d'Ondre-Grenade et celui de Blagnac ne vont pas être saturés? Et nous avons associé d'ailleurs à la réflexion suite à cette concertation Tisséo, qui est l'acteur des nouvelles mobilités, des modalités de mobilité d'ailleurs, qui est l'acteur qui est chargé de la réflexion et de l'action en matière de mobilité. Nous l'avons associé à la réflexion. On a une réflexion en cours actuellement de façon à affiner le dispositif et on y travaille. Et je pense qu'au printemps, on sera prêt, opérationnel.
Vous évoquiez les transports en commun, puisque effectivement, parmi les poids lourds, je vais dire, qui traversent, bon, il y a évidemment les camions, mais il y a aussi les bus, les autobus. Est-ce qu'il y a eu aussi, dans les contributions, beaucoup de demandes ou d'idées même, de suggestions concernant la prise en compte des mobilités douces, donc les voies cyclables, dans la future modernisation du pont?
Oui, absolument. Il y a de part et d'autre du pont deux plateformes d'au moins 2 mètres. Pourquoi 2 mètres? Parce que l'ouvrage, les piles actuelles, on est sûr que ces piles-là pourront soutenir deux fois deux mètres, supporter et bien tenir, mais peut-être plus. On va peut-être modifier la configuration pour avoir 50 cm de plus, ce qui donnera un peu d'aisance. Et si vous permettez, je voudrais faire une brève parenthèse. Je voudrais remercier Michel Simon, le maire de Gagnac, qui est toujours à l'écoute, qui travaille beaucoup et qui fait preuve d'un dynamisme extraordinaire pour nous aider dans cette démarche.
Et oui, parce que c'est la commune la première concernée, évidemment, les conséquences de ce chantier à venir.
Il y en a d'autres, le maire de Seille et d'autres communes,
de l'autre
bien
côté
entendu.
De...
Mais je crois que c'est important qu'il y ait une coopération active. Tenez, par exemple, actuellement, on est en train de réfléchir à l'éventuelle verbalisation des contrevenants qui mettraient de la surcharge sur le pont. Ça se fait en partenariat entre Toulouse Métropole et la mairie de Gagnac, bien entendu, et la préfecture. Donc, coopération au niveau des élus également.
S'agissant des acteurs économiques, qu'est-ce que leurs contributions ont apporté? Quelles ont été leurs principales préoccupations et leurs demandes?
Écoutez, on a été agréablement surpris. D'abord, je pense à une gravière qui est d'un côté sur une rive. Les responsables nous ont dit qu'on pourrait peut-être déplacer l'activité pendant quelques mois. Donc, ils nous proposaient des solutions pour ne pas...
De même, sans que vous ayez besoin de leur suggérer peut-être de modifier leur fonctionnement, finalement.
Absolument. Hein. Et puis, pour les établissements scolaires, nous avons une demande de transport, effectivement. Et nous sommes en train d'y travailler. Comme je vous disais, au printemps, nous serons prêts. Avec Tisséo, nous allons apporter des réponses concrètes à cette demande. Réaménager cette passerelle, sans doute, la passerelle qui est aujourd'hui la passerelle type Eiffel, avec la construction métallique qu'on connaît. Nous en sommes en train de travailler à la modernisation de cette passerelle, ce qui nous permettra d'avoir un meilleur franchissement.
Est-ce qu'il y a eu, de la part des acteurs économiques, sociétés, entreprises, quel que soit leur domaine d'activité, des demandes concernant le calendrier des travaux pour privilégier, vous l'avez déjà évoqué, la période de l'été, qui est le maximum de travaux pendant les mois de juillet-août?
Oui, c'est l'objectif qu'on se fixe, effectivement. Et d'ailleurs, ils nous ont remercié, ces acteurs économiques, de les avoir prévenus et d'avoir rendu prévisible le chantier de façon à pouvoir s'organiser en amont.
Les résultats et conclusions générales de l'enquête, quels sont les enjeux prioritaires qui sont ressortis, ceux auxquels vous devez absolument répondre ?
Eh bien, que la période de fermeture soit la plus courte possible, d'abord. C'est la raison pour laquelle on profitera des vacances, soit en 2027, soit en 2028, en fonction de la chauve-souris dont j'ai parlé tout à l'heure, mais d'autres contraintes, bien entendu. Ça, c'est le premier impératif, être proactif. Et d'ailleurs, en amont, nous avons déjà pris des dispositions, puisque l'entreprise qui sera retenue, eh bien, il faudra qu'elle soit très performante sur le délai de mise en œuvre. Alors, peut-être faudra-t-il organiser en amont des fabrications particulières. Bref, on regardera ça de très près, de façon à ne pas se trouver confronté à des délais trop longs, et surtout qu'on ne dépasse pas les délais prévus, bien entendu.
Alors, j'ai lu quelque part, dans les conclusions de l'enquête, que des commerces un peu éphémères pourraient être mis en place, installés de part et d'autre du pont.
Oui, oui, pourquoi pas. C'est une piste, effectivement. Ils se plaignent parce qu'ils ont peur, et c'est bien naturel. Ils ont peur de perdre leur business si le chiffre d'affaires
chute. Si les gens ne passent plus devant chez eux.
Donc oui, c'est une hypothèse qui a été retenue. Donc on réfléchit actuellement. On est dans le bon timing, je crois, très sincèrement. Un mot pour dire pourquoi on a écarté la première option et que cela nous a été, je dirais, concédé par le grand public. C'est parce que l'impact environnemental était trop important et que le délai, surtout, était beaucoup plus long, une dizaine, une douzaine d'années. Et puis s'il y avait des difficultés, des désordres d'un jour à l'autre, demain matin, eh bien on n'aurait pas de plan B, on n'a pas de solution. Alors que là, on a déjà engagé un processus de reconstruction, donc on peut éventuellement accélérer, pas ralentir, bien entendu, et donc ça ne peut qu'aller mieux. C'est un meilleur projet. Et je ne parle pas du volet financier parce que ce n'était pas le premier critère.
En parlant du volet financier, qui finance le projet ? Est-ce que c'est uniquement Toulouse Métropole ou est-ce qu'il y a d'autres collectivités ou organismes qui vont vous aider à le mener à bien ?
Alors, Toulouse Métropole exclusivement.
C'est uniquement financé par Toulouse Métropole. Maintenant, on va arriver, une fois qu'on a les constats et résultats de l'enquête, à ce que sont les engagements du maître d'ouvrage. Aujourd'hui, ils sont écrits, on sait ce à quoi vous vous engagez.
Oui, on s'engage d'abord, comme je disais, à respecter les délais. On s'engage ensuite à avoir un ouvrage qu'on va moderniser pour les 50 prochaines années. Donc c'est important. On s'engage également à préparer à cette occasion un bon franchissement par les vélos et par les piétons. Donc on est dans la tonalité, je dirais, non pas moderniste, mais moderne. Puisque le modernisme, c'est de l'idéologie, la modernité, c'est une réalité.
Oui. Donc il y a des engagements sur l'ouvrage provisoire lui-même.
Oui, et des engagements également sur l'organisation autour de ces travaux, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop d'impact. Bien sûr, il y aura des temps de franchissement en Garonne qui vont augmenter pendant les quelques mois.
Ça a été évalué, ça a estimé ?
Oui, ça a été évalué. Je peux vous donner entre Gagnac et Seille, par exemple, 35 minutes de plus de franchissement. Entre Gagnac et Blagnac, 17 minutes de plus. Et entre Saint-Jory et Toulouse, 4 à 5 minutes. Voilà, si vous voulez, l'impact. L'impact existe, mais je précise qu'il ne durera que quelques mois. L'espace de matin, comme dit le poète. Et ensuite, eh bien, on aura un pont tout neuf, dont le tablier sera entièrement refait. On garde les piles, on refait le tablier, on met le passage pour les vélos et les piétons. Et je pense que ça va bien améliorer, ça va amener un bol d'air, si je puis dire, dans le franchissement Garonne.
Et ça aussi, ça a été évalué, les gains qu'on peut escompter une fois que la modernisation du pont aura été menée à bien.
Alors, le franchissement sera plus rapide. On ne l'a pas mesuré, mais effectivement, il
y aura moins d'engorgement.
Et ça créera de la fluidité. C'est-à-dire que automatiquement, je dirais entre 5 minutes et 15 minutes de gagné en fonction des horaires, des moments de franchissement, bien entendu.
Et concernant les poids lourds, ce seront les mêmes qu'aujourd'hui qui pourront passer dessus. Le tonnage sera le même.
Oui, c'est le code de la route. Mais là, on est très attentif. Vous savez qu'on a mis en place un système de surveillance en temps réel, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on pèse les essieux et on sait quel est le poids du camion qui franchit. De temps en temps, certains se laissent aller. Ils vont au-delà des 44 tonnes. Eh bien, le travail qui est fait actuellement en coopération avec la préfecture et la mairie et le maire donc, de Gagnac, c'est de voir si on ne peut pas, dans un premier temps, je dirais première infraction, première observation, deuxième infraction, peut-être correction. Donc tout cela est sur la table aujourd'hui de façon à nous garantir que cet ouvrage ne sera pas malmené d'ici la fin des travaux.
Dans les gains espérés, il va y avoir bien sûr ceux qui vont concerner les cyclistes, qui vont maintenant pouvoir passer en toute sécurité, maintenant en tout cas, une fois que le pont aura été modernisé. Concernant la passerelle qui va être utilisée pendant le chantier provisoire, est-ce que son utilisation va être maintenue pour les piétons et les cyclistes ensuite ?
Alors ça, aujourd'hui, je ne peux pas répondre à cette question. Je pense que, naturellement, le pont deviendra un lieu de franchissement pour les piétons et pour les cyclistes. Je pense qu'ils ne feront pas le crochet.
Il n'y aura pas besoin de délester en
mais,
passant.
Mais effectivement, d'abord pour les questions d'attachement aux ouvrages anciens, il faut la conserver. Et puis la période des fêtes est une période extraordinaire hein, en matière de modernité et elle est encore d'actualité.
Oui, bien sûr.
Mais ensuite, pourquoi ne pas l'aménager en prévision de l'augmentation du nombre de franchissements pour l'avenir. Ça fait, c'est ce que j'appellerai la porte pour la soif.
Allez. Oui, et puis ça fait une soupape. Donc.
Voilà, c'est une soupape.
C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Grégoire Carnero d'être venu nous présenter le projet de modernisation du pont de Gagnac-sur-Garonne et donc les résultats de la concertation qui lui a été consacrée. Une description du projet et une présentation des résultats de la concertation sont également disponibles sur le site web de Toulouse Métropole à l'adresse www.metropole.toulouse.fr. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la régie technique Christophe Aubry. Rendez-vous maintenant la semaine prochaine à la même heure. Excellent week-end à tous.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.